Boulevard 102, émission On en jase, 418-971-1021 pour nous rejoindre en studio. Vous le faites très bien et j'adore avoir vos commentaires, j'adore avoir vos opinions. C'est vraiment très apprécié quand vous le faites. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Pour être à l'écoute de la meilleure façon également, BLVD 102.1, c'est disponible sur le App Store et le Google Play Store. C'est notre application. La meilleure façon de nous écouter, haut-parleur intelligent à la maison, vous dites écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. Mathias, je vois ça par la fenêtre, il y a de la circulation.
Oui, mais on va faire un petit tour rapide quand même. Sur la rive sud, 20 direction ouest, vous commencez à le savoir entre Taniata et Président Kennedy, c'est au rouge. Il y a un petit nouveau par contre sur la rive sud qui s'est rajouté cette semaine en raison de travaux sur Guillaume Couture à hauteur de chemin du fleuve. Eh bien, ça crée un ralentissement en direction ouest, pas mal à longueur de journée. Henri IV, direction sud à hauteur de Charest, un peu d'attente aussi. Même chose pour Laurentienne, direction sud pour rentrer sur Capitale. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Cette semaine, lorsque Dominique Dumas a fait sa sortie pour autrement dit, revoir certaines règles à l'avortement, bien, sur les médias sociaux, tous les gens qui sont contre l'avortement, qui sont encore dans cette vieille pensée chrétienne, en ont profité pour nous envahir de leurs propos. Pour autrement dit, tenter de nous vendre leur cause anti-avortement. Et là, aux États-Unis, avec le médecin Anthony Fauci, qui se retrouve devant une commission parlementaire pour parler de la gestion de la COVID, ben, j'ai l'impression que là-bas, c'est tous les bons vieux complotistes qui en profitent pour sortir de leur chambre où ils dormaient depuis quelque temps. Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et également producteur des capsules La Liberté en clair sur les médias sociaux, est avec nous. Luc, je me trompe-tu ou là, on a fait ressortir les complotistes de leur dôme et ils nous ont envahis à nouveau?
Ah, écoute, on l'avait dit hein, quand il a... En fait, il a refusé de témoigner. Il s'est présenté, mais ouais. Il a invoqué le cinquième amendement une centaine de fois. On reviendra d'ailleurs sur ce volet-là qui est très intéressant. Mais écoute, j'ai vu ressurgir un peu partout... Et c'est très difficile parfois de bien faire, entre guillemets, le tri. C'est qu'il y a des questions légitimes à se poser sur la gestion de la COVID. Et les gestionnaires eux-mêmes qui étaient en place reconnaissent certaines failles, certaines faiblesses. Puis on répète hein, à quel point on a dû s'ajuster vite. Et oui, il y a des choses, avec la perspective et le recul, qu'on ne referait pas. Mais entre ça et ce qu'il y a comme déchaînement sur les réseaux sociaux... contre Anthony Fauci et qu'on nous vend encore un complot des autorités américaines, de l'Organisation mondiale de la santé, ça, c'est ce qu'on a vu ressurgir et on sent que, dans certains cas, c'est une blessure. La blessure de la COVID, elle ne s'est jamais refermée. Il y en a qui semblent incapables de passer à autre chose, même quand je leur répète que peu importe ce que vous pensez de la gestion d'Anthony Fauci, il nous manque un très, très gros joueur pour faire la lumière sur les origines de la COVID et ensuite la propagation, le développement en pandémie. Il nous manque la Chine. Et oui. nous n'obtiendrons pas, je pense, à court, à moyen et fort probablement à long terme, de réponse et encore moins de transparence de la part des données qu'on ne peut obtenir que de la Chine. Alors, j'ai l'impression qu'Anthony Fauci aux États-Unis... Ben, il y a un jeu partisan, là, c'est clair. Il y a plus que ça aussi parce qu'il y a des questions sérieuses et fondées. Mais il hérite de toute la réaction très émotive de gens qui, plus souvent qu'autrement, finissent par n'être que des trolls.
Et c'est-tu moi, Luc, qui est dans l'erreur, mais j'ai l'impression qu'on devrait bien plus travailler à se préparer pour une nouvelle pandémie qu'à trouver qui est le coupable et à le pointer du doigt?
Ben, tu vois, moi, une des choses que j'observe, puis je le fais personnellement là, pour mes intérêts personnels, mais je le fais parce que je commente et j'analyse ce dossier-là au plan politique aux États-Unis, c'est qu'on nous le dit, il y aura d'autres épidémies et d'autres pandémies. Moi, ce que je veux avoir, c'est allons au fond de l'histoire pour éviter certaines erreurs ou encore certains ajustements. On a réagi très vite, honnêtement, du côté des scientifiques. Là. Moi, j'étais... Pour avoir enseigné l'histoire de la science partiellement, là, écoute, on a connu des développements hyper rapides. On n'a pas tout réglé, mais on a progressé très, très, très vite et on a vu la science évoluer sous nos yeux. Mais est-ce qu'il y a des choses, autant chez les scientifiques, mais surtout chez les décideurs, qu'on peut gérer de manière efficace ou encore plus rapide, apprendre finalement de cette gestion de la pandémie. Et moi, quand j'ai des questions pour Anthony Fauci, pour l'Organisation mondiale de la santé, pour le gouvernement en place au Canada ou au Québec, ce que je veux savoir, c'est ça. Qu'a-t-on appris, qu'a-t-on retenu de cet épisode-là qui nous a, à des degrés variables, tous touchés et influencés?
Et à cet effet-là, je vais démontrer l'autre côté de la médaille avec ma prochaine question. Est-ce que Fauci fait fausse route de se tourner vers le cinquième amendement pour toutes les questions? Parce que j'imagine, puis là, je ne les ai pas toutes lues, mais qu'il doit y avoir des questions qui sont très pertinentes posées, même si c'est un exercice partisan.
Voilà. Et là, on embarque dans deux ou trois choses. Il y a le jeu politique, il y a le jeu constitutionnel et il y a le jeu, légitimement, procédure judiciaire à venir. Anthony Fauci dit « Moi, je me présente là et j'ai déjà répondu au fil des ans, en entrevue ou devant le Congrès, j'ai déjà répondu à vos questions à de nombreuses occasions. » Et ce que les Républicains lui font ressortir, c'est « Oui, mais vous avez obtenu une grâce, un pardon ou une grâce présidentielle. Vous n'avez pas à être inquiété par des poursuites. Répondez, sinon c'est un aveu de culpabilité de votre part. » Ce que les Républicains ne disent pas dans ce jeu-là, c'est qu'il y a bel et bien eu une grâce présidentielle pour 2014 à 2022. Mais si Anthony Fauci devait, ne serait-ce que par erreur, se contredire ou nuancer des propos, ou s'il émet des opinions aujourd'hui, même si c'est une opinion d'expert, la grâce présidentielle ne le couvre pas. Donc s'il parle, il peut malgré tout être encore poursuivi. Ça explique pourquoi l'avocat d'Anthony Fauci a dit « Ne répondez tout simplement pas », ce qu'a fait à quoi 101 reprises Anthony Fauci. Mais à partir de maintenant, on s'en va où avec ça? Ça peut peut-être intéresser nos auditeurs et auditrices.
Vraiment?
Il y a deux avenues vers lesquelles on peut se diriger. La première, c'est qu'Anthony Fauci, aujourd'hui, a été blâmé. Donc, on a dit « c'est outrage au Sénat ». Mais ça, c'est un comité qui a dit ça, de 15 personnes. Il y avait 8 républicains, 7 démocrates, puis les 8 républicains ont joué le jeu partisan, puis ils ont dit « oui, on pense qu'il devrait être reconnu coupable d'outrage ». Faut encore que le Sénat se prononce au complet là-dessus, et c'est loin d'être acquis que les républicains vont l'emporter parce qu'on peut bloquer ce vote. Et c'est pourquoi, et c'est là où je m'en viens en disant « il y a vraiment deux avenues », soit Rand Paul, qui présidait la fameuse commission, dit « ok ». Moi, je me fous un peu de ce qui peut advenir au Sénat. Moi, je m'en vais directement au département de la justice avec ça. Mais le département de la justice, et on le sait, règle générale, ceux qui ont occupé la fonction de procureur général, Pam Bondi ou Todd Blanche présentement, ils répondent oui quand le président leur demande quelque chose. C'est déjà très inhabituel. Là. Un président coupe les ponts avec son procureur général.
Normalement, là.
Voilà. Mais ce n'est pas le cas présentement. Et le fond de l'histoire, donc, pour Anthony Fauci, là-dedans, ça va être, et là, on oublie la COVID, c'est le cinquième amendement. Est-ce que ça vous oblige à répondre quand on vous pose des questions ou si vous bénéficiez de la grâce et qu'en plus, vous avez le droit de ne pas répondre? Et le cinquième amendement qu'on invoque, il n'a jamais été pensé pour bloquer les témoignages de quelqu'un. Donc, ça va être très intéressant pour quelqu'un comme moi, tout le moins, sur le... Pour les nerds de politique, c'est qu'on est sur un terrain qu'on n'a à peu près jamais étudié, où il y a encore des parts d'ombre ou des zones d'ombre. Mais donc, attendez-vous à ce qu'on déplace ça vers le procureur général des États-Unis, puis attendons de voir ce qu'on va dire. Parce que Anthony Fauci ou pas, tous ceux qui vont invoquer le cinquième amendement à l'avenir, ben, il va planer maintenant sur eux le résultat des discussions qu'on va avoir devant les tribunaux. Et l'autre chose, bien sûr, ben, je disais, c'est le Sénat. Est-ce que le Sénat serait prêt maintenant si jamais on devait briser le blocus ou l'opposition démocrate? Ben, qu'est-ce qui attend Anthony Fauci? Ça peut être derrière les barreaux éventuellement et ça peut être aussi une sanction financière qui peut être assez sévère. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a la COVID, il y a les réponses qu'on n'obtiendra pas à mon avis, mais il y a beaucoup plus que ça, du jeu partisan et des procédures judiciaires.
Ouais, ben c'est là est mon point. En gros, de ce que je comprends, on va avoir une décision qui va... On a de bonnes chances d'avoir une décision qui va avoir le pouvoir d'impacter des années aux États-Unis en lien avec le cinquième amendement basé sur ce qui va être probablement une poursuite partisane.
Oui, et l'autre chose, c'est important de le souligner, c'est que pendant ce temps-là, ceux qui, complotistes ou pas, attendent des réponses sur l'origine de la COVID ou la gestion de la COVID, on va aller de procédure judiciaire en procédure judiciaire et attendez-vous pas à avoir de retombées à court terme. Et c'est là où le jeu partisan pour les républicains est déjà payant. C'est que pendant que vous attaquez Fauci, pendant que vous jouez sur les sensibilités ou l'émotion des gens, la curiosité des gens, ben vous parlez pas des boulets que vous traînez et vous parlez pas du deux poids, deux mesures. C'est qu'on exige d'Anthony Fauci des choses qu'on n'exige pas, par exemple, dans le dossier Epstein. Si les sénateurs républicains étaient aussi acharnés pour avoir la lumière, la vérité et faire payer ceux dont on pense qu'ils sont coupables dans le dossier Epstein, on aurait plus de lumière sur le dossier Epstein, mais de ça, on n'en parle pas. Donc, ça permet aussi au plan politique une diversion. On peut trouver ça habile. Si ce qu'on souhaite, c'est le fond de l'histoire, bon, on met de côté le jeu partisan et on risque d'être tous pas mal déçus.
Ah, clairement qu'on va être déçus. Parlant de boulets, t'as dit, bon, on évite les boulets de parler de nos boulets, mais un boulet pour Donald Trump, c'est l'Iran, évidemment. Et là, on apprend aujourd'hui que l'Iran avait menacé de plonger le golfe dans le noir, ce qui a fait en sorte que Donald Trump a pris un pas de recul et a pas fait ses fameuses attaques en fin de semaine dernière. Luc, moi, je suis sidéré de voir à quel point l'Iran gagne du pouvoir de jour en jour dans ce conflit-là.
Et à quel point, finalement, si on met bout à bout, l'information que tu viens de dévoiler, elle est très, très importante. C'est un argument de négociation, c'est un levier de négociation. Mais c'est quand on met les nouvelles des deux, trois derniers jours bout à bout, je vois pas comment les États-Unis peuvent présenter ça, un, comme une victoire, mais deux, comment ils peuvent s'en sortir, même, entre guillemets, honorablement à court terme. Il y a cette problématique du détroit d'Ormuz. On apprenait hier que l'Iran négociait directement avec le sultanat d'Oman pour dire « on va s'en faire une voie navigable ». Mais les Américains ne sont pas autour de la table. Ça veut dire qu'ils perdent un peu le narratif puis que dans un ou deux dossiers, ils sont là comme spectateurs. Ça veut dire aussi qu'on n'a fort probablement pas, en fait, on n'a pas respecté le plan d'attaque pensé par les généraux ou les mises en garde des généraux américains. Le détroit d'Ormuz, c'était dans le haut de la liste de ce qu'avait établi comme mise en garde le chef des états-majors aux États-Unis, Dan Kane. Et il avait dit aussi, parce que c'est un autre sujet d'actualité, il avait dit aussi, si vous êtes en Iran, voici où on en est dans le stock de missiles pour intercepter ou pour viser des cibles. Et là, on parle de pénurie ou de menace de pénurie. Ça veut dire que Pete Hegseth et Donald Trump se sont lancés très rapidement, qu'ils pensaient à une victoire facile, rapide, alors que les généraux ne croyaient pas dans cette option-là et qu'ils sont allés de l'avant. Et les généraux n'ont pas à être fidèles à Donald Trump. C'est-à-dire que, bien sûr qu'ils vont obéir au commandant en chef si l'ordre donné par le commandant en chef, qui est Donald Trump, si cet ordre-là est légal. Mais ils ont le droit d'émettre des réserves. Quand le président les consulte pour dire « on attaque », ben, ils ont toute une feuille, hein, une checklist, une liste de vérification disant « voici nos forces, voici nos faiblesses ». Et là, ce qui ressort, c'est qu'on est passé très rapidement, de manière négligente, par-dessus des faiblesses déjà identifiées par le chef, le dirigeant, le premier consultant militaire qui est Dan Kane. Donc, ça nous met un président américain qui dit « ah, la diplomatie, on lui donne encore une chance, on me dit que ça va bien ». Il n'est pas invité à la table pour le détroit d'Ormuz. Et de l'autre côté, ce qu'on apprend, c'est que finalement, s'il est aussi patient, c'est qu'on a des arguments de l'autre côté qu'on fait valoir. Et l'Iran, qui n'est absolument pas un régime que j'apprécie, s'il y a bien un régime que j'ai en horreur, c'est bien le régime iranien.
C'est pour ça, Luc, que j'ai dit je suis sidéré parce que c'est un régime, c'est le pire régime à peu près totalitaire de la planète que le contrôle présentement du Moyen-Orient par les gaffes des États-Unis, ça me fait peur.
Voilà. Et on voudrait tous que ce régime-là tombe. On voudrait tous, parce qu'on a eu tellement d'Iraniens dans la rue et tellement de gens qui sont morts aux mains de ce régime ou à la suite des frappes, on aimerait donner aux gens des nouvelles qui disent « on va ramener l'Iran à l'ordre » ou « on va au moins débloquer le détroit puis diminuer ou atténuer la puissance nucléaire iranienne ». Mais on n'a pas ce genre de nouvelles à annoncer. La lueur d'espoir, s'il y en a une, est-ce que Donald Trump est prêt à essuyer une défaite ou tenter, entre guillemets, un spin politique pour se sortir de là? Et c'est surtout la participation d'autres joueurs. On vient de parler du sultanat d'Oman, dont on ne parlait pas du tout. Ils n'ont pas changé de place sur la carte.
En effet.
Voilà, mais maintenant, on en parle. Et on ajoute à ça l'Arabie Saoudite, on ajoute à ça les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Pakistan. Donc, il y a maintenant des pressions d'autres joueurs qui sont économiquement et dans leur sécurité nationale menacés ou impactés par ce conflit. Et ils ont peut-être un pouvoir à exercer, mais ça montre bien que Donald Trump, de plus en plus, il demeure toujours le président des États-Unis, toujours à la tête de la force armée la plus puissante de la planète, mais il est comme en retrait. Il est souvent plus comme spectateur que comme acteur. Et ce n'est déjà pas normal ou même souhaitable si on est un Américain. Et puis un Canadien aussi, par extension.
En effet, et je rajoute une dernière pièce au casse-tête, Luc, c'est Benjamin Netanyahou qui a déclaré hier « Israël n'a pas accepté le plan de paix pour Gaza soutenu par Washington et ce voilà. fameux conseil de paix-là ». Donc là, Donald Trump frappe dans le vide partout au Moyen-Orient à l'heure actuelle. C'est vraiment très, très questionnant et problématique pour le Moyen-Orient, là.
Et pour être honnête, il paie surtout pour s'ouvrir la trappe aussi souvent et de manière aussi tranchée.
T'as raison.
C'est très complexe, cette raison-là, cette région-là. Et regardez combien de temps l'administration Obama avait négocié avec l'Iran. Ça avait pris des mois, des années de négociations. Donald Trump arrive, à sa manière habituelle, coutumière, on frappe l'Iran, on ressort de là en quelques jours. Il nous a déjà dit qu'il avait gagné 7-8 fois. Mais ce sont des dossiers qui demandent énormément de doigté, énormément de préparation et du temps. Et je pense qu'on est allé trop vite et de manière brouillonne.
Luc Laliberté, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Tu es chroniqueur et spécialiste en politique américaine et tu es producteur des capsules La Liberté en clair sur les médias sociaux. Merci pour ta présence ce midi.
Bonne fin de journée à ceux qui nous écoutent puis à vous deux, bien sûr.
Cool. Salut, merci beaucoup. Luc Laliberté, on adore parler avec lui. On l'entend autant dans Marceau le matin qu'ici à l'émission. On en jase. La géopolitique internationale est en train complètement de se modifier sous nos yeux avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Moi, pour de vrai, je suis vraiment apeuré du fait que l'Iran ait réussi à prendre autant de contrôle parce que l'Iran va continuer à financer le Hezbollah, les Houthis au Yémen, va continuer à financer le Hamas. Et c'est cette région-là, une région des très grands producteurs de pétrole dont on a besoin, qui va se retrouver guerre par-dessus guerre. On a vu ce que ça a donné à Gaza aussi, énormément de famine, des dizaines de milliers de civils tués pour rien. Alors, franchement, là, c'est rien de jojo ce qui se passe là, par le fait que les États-Unis font des mauvais choix.
Ah, ils échappent. Ils échappent complètement. Je tiens quand même à rappeler qu'il faut suivre la situation de près parce que ça nous impacte. Mais créez-vous pas d'anxiété avec ça non plus. Là.
Non,
L'Iran,
en effet.
C'est pas ici. Là, on va pas avoir de bombardement.
Non, on n'aura pas de guerre ici.
Exactement. Je tiens quand même à préciser parce que je sais que certaines personnes se font bien gros d'anxiété
c'est
avec
une
ça.
Excellente précision.
On est quand même chanceux qu'on est ici. Là.
Oui, oh oui.
Mais cette situation-là est préoccupante puis il faut la suivre.
En effet. Isabelle qui écrivait, je ne vais pas poser la question à Luc, mais je vais pouvoir te répondre, Isabelle. Si Donald Trump n'est pas renouvelé à la mi-mandat, Donald Trump ne peut pas ne pas être renouvelé à la mi-mandat, mais peut perdre le contrôle de la Chambre et du Sénat. Ça pourrait-tu se régler? Ben oui, ça va changer des choses si jamais une des deux institutions, c'est-à-dire la Chambre ou le Sénat, devient sous le joug démocrate. Mais là, malheureusement, les démocrates s'en vont complètement dans l'extrême gauche.
Ça va pas très bien de ce côté-là.
Non, c'est ça. T'sais, on est comme foutus présentement. Si je suis un électeur américain, je regarde ça.
Je voterai pas, je pense. Pour de vrai.
Pour de vrai, c'est ça. OK. MAGA ou Québec solidaire. Puis même, je pense que c'est encore pire que Québec solidaire.
Ouais, dans
les socialistes
situations...
sont pires. On veut plus de frontières, on veut plus de police, on veut plus de prison. Fait que, tu sais, MAGA ou l'extrême gauche, c'est là qu'on s'en va pour le choix de mi-mandat.
Ben, le problème, c'est que de plus en plus, les démocrates dénoncent la façon que Donald Trump fait de la politique en faisant de la politique de la même manière, mais de l'autre côté.
T'as tellement raison.
On n'est pas mieux, là. C'est, dans les deux cas, c'est du populisme à son plus grand niveau.
T'as raison. C'est comme si j'avais dit en début d'émission, quand on parlait de la COVID et qu'on parlait des complotistes, c'est comme si j'avais dit « Ouais, mais là, lâchez le gouvernement. Ils n'ont pas besoin là, de nous mettre ça par écrit. Là. Ils ont bien fait. Ils ont tout bien fait.
Le gouvernement fait toujours
la
CAQ, tout
la
bien. »
Exactement. Fait que c'est ça qui se produit aux États-Unis. Ouais. C'est carrément ça. Alors que, tu sais, moi, je crois pas au complot. Pas du tout.
Mais en même temps, je suis très déçu du fait qu'on ne documente pas bien les actions qu'on a prises de la COVID. Fait que ça, on appelle ça être un petit peu plus au centre. Mais là, aux États-Unis, présentement, c'est les extrêmes qui vont s'affronter. Dans la plus grosse démocratie au monde, la plus grosse armée, une puissance économique, c'est vraiment questionnant pour l'avenir de nos relations économiques avec ce pays-là dans les prochaines années. Parce qu'on ne sera pas mieux si c'est des démocrates complètement à gauche qui prennent le pouvoir là, aux États-Unis.
Pour de vrai, de plus en plus aux États-Unis, il va falloir qu'on voie une nouvelle figure qui se démarque,
oui,
qui est charismatique, mais qui n'est pas dans les extrêmes.
Qui est plus central.
Tu sais, un Barack Obama,
oui,
un Ronald Reagan.
En plein ça.
Ce qu'on a eu dans le passé aux États-Unis, il va falloir qu'on revoie une figure comme ça, puis au plus vite.
Ah, vraiment, ça prend ça, parce que le monde va bien quand les États-Unis vont bien. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est comme ça que ça se passe en géopolitique mondiale. On fait une courte pause, on revient avec le tour de l'actualité. Et je veux te parler aussi, Mathias, de cette problématique dans une école secondaire de Lévis.
Toute une histoire.
Une enseignante non qualifiée qui, une journée avant la rentrée, dit « Hey, sais-tu quoi? M'a allé aider. » Mais elle se fait pitcher sûrement dans la pire classe de l'école. En termes de gestion, tu peux pas faire pire. On en jase.